Une vie, une œuvre, c'est samedi, 16h, c'est tout de suite. Guy Hockenghem, 1946-1988. Aujourd'hui, Une vie, une œuvre, c'est l'histoire de celui qui a fait son coming out dans un journal, qui militait au Front homosexuel d'Action révolutionnaire, celui qui est mort jeune et était poète, journaliste, philosophe normalien, de bonne famille et écrivain. Solaire, un halo de cheveux bouclés qui encadre son jeune visage sur les photos, Guy Hockenghem plante son regard dans l'objectif des années 70. Une dizaine d'années plus tard, il a les cheveux plus courts et plus gris et il fait moins jeune pâtre. Sur les photos, il est souvent en réunion, en mouvement, dans la rue ou en manifestation. Et il a toute la panoplie. Jean patte d'éléphant, col roulé, blouson de cuir. Il a souvent les yeux rieurs et le sourire en coin et on pense à Daniel Cohn-Bendit. Sur les photos plus tardives, il est plus songeur et son regard est très doux. Mais nous, on sait qu'il est mort jeune. Alors on cherche dans les images cette mort en marche que l'on ne voit pas. Et puis il y a deux photos. L'une incroyable, au carnaval de Rio, où il est déguisé en toucan, vert, avec un grand bec. Et une autre où il fait l'andouille, mimant une crucifixion sur le calvaire d'un cimetière. Un sacré blagueur, et pourtant ça serre le cœur. Alors pour accompagner la Gay Pride, suivons Guy Hockenghem, itinéraire d'un indompté, un documentaire de Delphine Saltel réalisé par Marie-Laure Ciboulet.
On est en 67, je dois avoir 16 ans, 17 ans, et je suis à la Cinémathèque, c'était là où tout se passait, dans Paris, c'était à la Cinémathèque. On est allé voir une comédie musicale ouvrière guatémaltèque, quelque chose comme ça. Et j'ai une amie trotskiste à côté de moi qui dit « Regarde, c'est Guy Hockenghem !» Il devait avoir 18 ans, 19 ans. Et c'est vrai que la première chose, c'est sa beauté. Il était d'une beauté très grand, ses cheveux frisés, des traits très réguliers, un peu androgyne. Et effectivement, c'était une apparition. Et il avait déjà une légende.
Quand je l'ai rencontré, Guy, c'était déjà un personnage très actif dans le monde qu'on appelait politique, hein, des étudiants actifs de Paris. Il est à ce qu'on appelle la JCR, la Jeunesse Communiste Révolutionnaire, c'est les trotskistes de la 4e Internationale. Et Guy Hockenghem, la première fois que je le vois et que je l'entends, on est en 1968, on est dans un meeting politique d'étudiants où, après avoir passé quelques semaines en dehors de Paris pour s'aérer, une fois que les grandes grèves ont été terminées, les gens reviennent petit à petit, puis on essaie de faire les comptes, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Et les groupes politiques qui avaient plus ou moins flotté dans les mois de mai, et surtout de juin 68, essayaient de se recomposer. Ils tiennent un discours complètement imbécile, à mon avis, et à l'avis de beaucoup de gens, qui est « construisons le parti révolutionnaire pour faire la révolution de 1917 en Russie ». Et Guy, avec un autre garçon que je ne connaissais pas à cette époque-là, qui s'appelle Jean-Michel Gérassi, monte à la tribune et disent « Attention, c'est pas du tout ça. Essayons de vivre ce moment-là, qui est un moment extrêmement exaltant. L'heure n'est pas à la construction d'une organisation, mais à profiter de l'instant et à en jouir autant qu'on peut. »
Guy Hockenghem, itinéraire d'un indompté.
Journée ensoleillée de mai, ce mois de mai qui a rythmé ma jeunesse comme il a rythmé le siècle. La vraie politique, faite d'air de sérieux, je ne l'ai connue qu'à Paris, quand je suis entré au lycée Henri IV. J'y arrivais gaulliste, et oui, sot ou ignorant, tout à fait insupportable si j'y repense. J'en sortis gauchiste et homosexuel.
Tant qu'il y a d'un côté des manifestants, de l'autre côté des policiers, nous sommes du côté des manifestants.
Mes parents, hors quelques réflexions interrogatives, semblaient ne rien voir de ma transformation. C'était comme si une marionnette, moi-même, montait l'escalier en leur disant bonsoir, alors que tout l'après-midi, un autre moi avait rôdé sur les boulevards. Cette manière de me ficher la paix par le non-dit évita tout problème. Cette mutation, de l'adolescent extrémiste et solitaire, les familles nombreuses sont parfois lieux de solitude, au jeune homme conscientisé, vite habitué des réunions et de la logomachie marxisante, reste un mystère dans ma mémoire.
La grève avec occupation d'usine est adoptée à l'unanimité, moins une voix.
Ma vie consciente débute juste là. J'ai manifesté devant l'Odéon pour protéger les paravents de Genet, assisté à la deuxième manifestation de Charonne. Et pour la première fois, j'ai ressenti cette ivresse hystérique, au bord des larmes, qui saisit quand toute la foule hurle d'une seule voix et qu'un instant, comme les mystiques, on y croit.
Écoutez, ça y est, ça change maintenant, nous sommes derrière. Nous sommes derrière, les gardes mobiles, ça pleut dans tous les sens. C'est épouvantable, ce sont des dizaines, des centaines de cailloux, de pavés qui volent maintenant. Des voitures se remrouillent. Aïe la vache, pousse-toi.
À partir de la fin de l'année 68,
Marc Hatzfeld.
Ce qui l'anime, lui, comme beaucoup de gens, c'est l'impression que nous sommes peut-être en train de construire un monde nouveau. Et ça se passe. Alors, ça se passe dans les rapports entre les gens. Les gens ne s'adressent plus la parole de la même façon. On se tutoie beaucoup, on s'appelle camarades. Qu'on s'embrasse quand on se rencontre, ça date de là. Et donc, ça nous anime beaucoup, mais sur le mode de l'invention, de la pratique, des gestes quotidiens. Par exemple, la communauté d'Ivry, on l'a fondée ensemble, et avec Guy, on décide de mettre tout en commun. En faisant ça, nous avons l'impression de participer à une transformation du monde.
On nous dit, le bonheur c'est le progrès, faites un pas en avant. Et c'est le progrès, mais ce n'est jamais le bonheur. Alors si on faisait un pas de côté, si on essayait autre chose.
En gauchisme, il est passé du trotskisme au maoïsme, ce qui est une régression.
Hélène Azérin.
Mais il avait quand même déjà des rumeurs d'homosexualité qui étaient comme une auréole.
J'aurais dû ne jamais rencontrer Samuel. Mais j'avais été placé dans la classe de ce petit homme en costume de velours à rayures que j'avais justement devant moi. Le malheureux Samuel eut à vaincre chez moi dans mes premières dissertations une telle naïveté, une telle innocence bête dans l'idiotie, qu'il faillit bien ne pas y arriver. Enfin, en décembre, il m'invita à dîner. Je ne pourrai jamais dire tout ce que je dois à Samuel. Il m'a décrassé, au moral, au physique, intellectuellement. Samuel m'a tout appris, le sexe et la politique, à une époque où c'était les seules préoccupations profondes. Encore aujourd'hui, on se scandalisera peut-être, dans ce début du second millénaire, que mon professeur ait couché avec moi. Il atteignait la cinquantaine. La première fois, je suis rentré en métro à Sceaux, et je ne cessais de répéter si les gens autour de moi savaient que je venais de faire l'amour avec un homme. Comment aurait-il réagi, ces ménagères abruties au regard de vache mélancolique, ces petits cadres aux costards sales, ces étudiants à lunettes? Et le sentiment de mon unicité s'est brusquement révélé, agrandissant ma tête, bouleversant l'espace de ce petit compartiment puant où nous étions tous secoués par la marche du train. Ce que m'apprenait surtout cette expérience, c'est le charme fou, inépuisable de la double vie. Je n'ai pas cessé de vivre sur deux registres, homosexuel d'un côté, militant de l'autre, et plus tard écrivain et malade. J'ai toujours eu quelque chose à cacher à la moitié de mes relations.
Il a vécu son homosexualité de manière dissimulée, même de manière honteuse, pourrait-il presque dire, avant 68 et même après 68.
Antoine Idier.
Et notamment dans les mouvements politiques de la gauche radicale, où l'homosexualité était impossible, était inconcevable. Et par exemple, il y a une anecdote qui est assez révélatrice de la manière dont les choses se passaient, c'est qu'il avait un compagnon à l'époque, et quand lui et son compagnon, qui n'était pas présenté officiellement comme son compagnon, se retrouvaient dans des réunions militantes, et que Guy Hockenheim trouvait que son compagnon avait des attitudes trop maniérées, faisait trop la folle, comme il dit, il lui donnait des coups de pied sous la table pour lui dire de s'arrêter.
C'est une assemblée gauchiste dans une des salles de classe de l'école. Les bustes des historiens et des archéologues regardent de leurs orbites vides les chevelus en jean qui, à coups de cigarettes et de nuits blanches, ont atteint ce teint pâle et comme mangé de soucis qui est l'idéal du révolutionnaire. Un révolutionnaire bronzé, c'est un non-sens. On adopte des motions, on compte les « ne prends pas part au vote », dans le cadre d'une obscure querelle opposant deux ailes du trotskisme. Soudain, Chisseret se lève et se met à hurler. Chisseret dirige l'autre aile, celle à laquelle je n'appartiens pas. Nous sommes des liquidateurs, des petits bourgeois. L'orateur est rond et rose, une tête d'épicier, qui cache une âme de Fouquier-Tinville. Et en plus, Hockenheim est homosexuel. Votre groupe admet des petits bourgeois dégénérés et vicieux. C'est la première fois qu'on m'impute publiquement cette accusation. Mon cœur s'arrête de battre une seconde, et puis j'éprouve une sensation glacée, étrange, comme si on m'avait mis nu devant tous.
Dans l'Amphithéâtre des Morts, il raconte ce moment précis où on l'a accusé d'être homosexuel.
Elisabeth Salvaresi.
Et ses amis, ceux dont il était proche dans le mouvement trotskiste d'où il sortait, lui disent « Est-ce que c'est vrai ?» Et il répond « Non. » Non. Et en fait, je sais qu'il l'a vécu comme c'est Saint-Pierre reniant Jésus. Il s'est renié ce jour-là et il ne se l'est jamais pardonné. La honte ne vient pas de l'homosexualité, de la différence. Et même le secret, c'est aussi le doux secret. Le secret d'avoir quelque chose qui lui est propre à lui et qui n'a rien à voir avec le monde qui l'entoure. Mais la honte vient d'avoir renié. C'est ça. La honte, c'est de ne pas avoir eu le courage insensé de se lever et dire « Oui, je suis ce que vous appelez un PD et je vous emmerde ». D'abord, il s'est renié et il a renié ceux qu'il aime.
Et à l'époque, c'est René Scherrer ?
C'est René Scherrer et c'est tout son environnement affectif qui jusque-là était totalement... Et sa vie était coupée en deux, il y a une vraie schizophrénie. C'est le monde de la nuit par rapport au monde du jour. La nuit, on va draguer aux Tuileries, la nuit on fréquente des bars, des bars homosexuels, la nuit on fait l'amour, la nuit on se raconte des folies, la nuit c'est pour nous, la nuit c'est pour soi. Et le jour c'est les occupations militantes. L'homo militant était quelqu'un qui n'avait pas de corps, pas de sexe, pas de désir, d'autre que d'accomplir la révolution prolétarienne. Mais oui, parce que le dogmatisme en politique amène à une sorte de... C'était très puritain, tout ça. L'homosexualité, je pense que personne n'y avait jamais pensé dans les milieux gauchistes avant.
Vous ne vous sentez pas oppresseur ? Vous baisez comme tout le monde ? Ça n'est pas votre faute s'il y a des malades ou des criminels. Vous n'y pouvez rien, dites-vous, si vous êtes tolérant. Votre société, car si vous baisez comme tout le monde, c'est bien la vôtre, nous a traités comme un fléau social pour l'État, l'objet de mépris pour les hommes véritables, sujet d'effroi pour les mères de famille. Les mêmes mots qui servent à nous désigner sont vos pires insultes. Avez-vous jamais pensé à ce que nous ressentons quand vous mettez à la suite ces mots « salaud »,« ordure », »,« tapette », »,« pédé » quand vous dites à une fille « salgouine » ? Vous qui voulez la révolution, vous avez voulu nous imposer votre répression. Vous combattiez pour les Noirs et vous traitiez les flics d'enculés, comme s'il n'existait pas de pire injure. Vous, adorateurs du prolétariat, savez-vous ce que c'est pour un jeune ouvrier que d'être homosexuel en cachette? Savez-vous, vous qui croyez à la vertu formatrice de l'usine, ce que subit celui que ses copains d'atelier traitent de pédale? Tout. Numéro 12. Avril 1971.
Nous nous sommes rencontrés, en fait, dans les locaux du journal Tout, dont le titre exact était « Ce que nous voulons, tout ». C'est une des premières fois où il parle de son homosexualité, et en tout cas, c'est certainement, sinon la première fois, en tout cas une des toutes premières fois, où il en fait un combat public. Et contre ses propres alliés, on va dire.
Libre disposition de notre corps. Depuis notre enfance, on nous fait honte de notre corps. On nous empêche de nous branler d'abord, sous des prétextes médicaux farfelus. On nous empêche de mettre les coudes à table, on nous oblige à n'être jamais à poil. On nous fait honte de notre corps, parce qu'il traduit nos désirs, même quand nous n'osons pas les dire. On nous dit « soumettez-vous dans votre chair, portez des cravates, des slips et des soutiens-gorge, faites le salut militaire, ne vous étendez pas sur les pelouses, ne vous asseyez pas dans le bureau de votre chef, restez assis en classe ».
il est venu pour défendre les textes qu'ils ont apportés et qui vont servir au numéro 12 de tout, entièrement consacré à la révolution dite sexuelle. Et où les homosexuels du moment ont apporté les trois quarts du numéro.
Vous n'osez pas le dire. Vous n'osez peut-être pas vous le dire. Nous étions comme vous il y a quelques mois. La répression existe à tous les niveaux. Le bourrage de crâne de la propagande hétéro, on le subit depuis l'enfance. On continue à vivre cette répression quotidiennement, en risquant le fichage, la prison, la proscription, les insultes, les casse-gueules, les sourires narquois, les regards commissaireux. Nous revendiquons notre statut de fléau social, jusqu'à la destruction complète de tout impérialisme. À bas, la société fric des hétéroflics. À bas, la sexualité réduite à la famille procréatrice et au rôle actif-passif. Arrêtons de raser les murs.
Je me souviens des longues conversations. Nous étions au café à côté des Beaux-Arts, se tenaient les âgés, et on discute de ce mouvement de libération des homosexuels, comment on va l'appeler, qu'est-ce qui va le définir. Je ne me souviens pas si c'était ce jour-là qu'on a décidé que ça serait Front homosexuel d'Action révolutionnaire, mais il me semble que oui. Il y a Action révolutionnaire, qui reste du gauchisme, un classique. Encore que ceux qui ont fait véritablement le début du mouvement de libération des homosexuels n'étaient pas des militants à Paris, dans l'ensemble. Donc c'est l'homosexualité qui rentre dans la politique, plutôt que la politique qui s'empare de la sexualité.
Oh, le phare, on ne peut pas raconter. C'est un théâtre. Les homos et puis ceux qui les accompagnent sont là pour se battre contre les discriminations. Et en même temps, il y a beaucoup de haine entre les gens. Il y a beaucoup de violence intra-communautaire au phare. Et les gens disent « Oui, regarde, cette espèce de folle !» C'était dans un hémicycle des Beaux-Arts. Il n'y avait pas de personnes qui facilitent les tours de parole. Il fallait juste gueuler plus fort que les autres. Et lui, il prenait la parole. Il y avait toujours deux ou trois personnes autour de lui, les suivantes. Et le silence se faisait.
Si un homosexuel homme éprouve le désir d'être baisé par un autre homosexuel homme, ça ne veut pas dire du tout qu'il se considère pour ça comme inférieur. C'est vraiment coller le langage social sur le désir, considérer que le désir, ça s'exprime toujours sous les formes des rapports de force qu'a institué la bourgeoisie et tout ça. C'est pas du tout la même chose. Les rôles sexuels, si tu veux, tels que tu peux les vivre quand tu couches ou quand tu aimes quelqu'un ou quand tu aimes plusieurs personnes, et les rôles sociaux qu'on a imposés à la sexualité. C'est-à-dire le fait qu'on désire soit être baisé, soit successivement les deux, soit les deux en même temps, soit tout ça, ça n'a rien à voir avec le fait de se considérer comme inférieur ou supérieur. Ça n'a à voir que dans la mentalité bourgeoise.
Il était un des seuls qui pouvait vraiment parler longtemps au phare sans que les gens se lèvent et l'insultent. Il avait ce pouvoir, ce qui fait qu'il avait évidemment beaucoup d'ennemis. Il parlait quand même très bien. Même mieux que ça, il faisait les blagues dégoûtantes qu'on devait faire au phare. Il donnait quand même un petit peu l'air assez satisfait de lui-même, mais il y avait de quoi. J'aurais prononcé le mot leader, j'aurais été lynché dans les 5 minutes qui viennent, mais c'était une sorte de leader, on ne peut pas dire le contraire.
Ce qui fait le phare, c'est quelque chose qui ne se laisse emprisonner en aucune formule, parce que c'est politique et vital à la fois. Ce qu'on décrit maladroitement, club de discussion, lieu de drague, groupuscule politique, c'est tout ça et autre chose. Et des AG bordéliques, des petits groupes mi-partouze, mi-psychodrame, des tentes et des gauchistes. Nous ne sommes pas un groupe, mais un mouvement. Laissons tomber l'étiquette. Le phare n'est à personne. Il n'est personne. Il n'est que l'homosexualité en marche. Tous les homosexuels conscients sont le phare. Les jalousies, la drague, le maquillage, l'amour, c'est le phare. Tract distribué au phare, juin 1971.
La grande chose qu'il y avait de nouveau par rapport à l'homosexualité, c'était l'insolence. Vous aviez un groupe avant qui s'appelait Arcadie, qui a été méritant parce qu'il a existé, parce qu'ils ont fait des choses, mais leur grand truc, c'était plier les Chines, plier les Chines. Et là, tout d'un coup, on envoyait au visage de la société des hétéroflics, je vous donne le vocabulaire de l'époque, phallocentrique, phallocrate. Ceux qui ne sont pas habitués au monde homo, et même ceux qui étaient habitués à un monde homo un petit peu gourmé, ils partaient très vite. Hein. C'était trash, ça, c'était bien ça.
Là, pour le coup, il n'y avait plus la barrière nuit-jour. Il n'y avait plus les deux mondes. Donc il y a eu un moment d'exultation magnifique. Il est unifié avec lui-même. Son âme combattante est réunie avec son âme jouisseuse, réelle. Enfin, tout d'un coup, il n'est plus une contradiction vivante. Et puis, il a vaincu sa peur. Et ça a été un moment de grâce.
Le Nouvel Observateur, 1972.
La révolution des homosexuels. Il a fallu 3 ans après mai 68 pour que l'auteur de ce témoignage et d'autres hommes qui aiment les hommes osent lutter à la fois pour la liberté de tous et pour la leur.
Au phare, la lettre dans le Nouvel Observateur, il y en a beaucoup qui n'ont pas aimé, puis surtout ils auraient aimé le faire à sa place.
Je m'appelle Guy Hockenheim, j'ai 25 ans. Un de ces soirs où, adolescent, je rentrais tard à la maison en montant les escaliers sans trop faire de bruit, ma mère m'a surpris sur le palier. À brûle-pourpoint, on n'en avait jamais parlé, elle m'a demandé « Tu ne serais pas homosexuel au moins ?»
Le Nouvel Observateur, c'est même janvier 1972, où un journaliste du Nouvel Observateur a été très impressionné par la prestation et la prise de parole de Guy Hockenheim lors d'une assemblée générale, et a décidé de lui donner la parole, d'où cette forme d'autoportrait de 4 pages, où Guy Hockenheim parle aussi bien de son parcours, de son enfance, de sa famille, et de son rapport à sa sexualité. Et donc, à la suite de la publication de cet autoportrait d'un Nouvel Observateur, il est approché par un éditeur qui lui demande d'écrire un livre, d'où la publication du Désir homosexuel, qui, je pense, est un livre majeur de la seconde moitié du XXe siècle, et qui d'ailleurs a été redécouvert ces dernières années, notamment outre-Atlantique, aux États-Unis, au sein de ce qu'on appelle la théorie queer, qui voit aujourd'hui, en fait, dans le Désir homosexuel, un de ses textes fondateurs qui pose un certain nombre de problèmes qui existent encore aujourd'hui au sein de la théorie et au sein des mouvements militants. Et donc l'idée, c'est effectivement pas du tout de faire un manifeste politique, mais bien d'entreprendre un véritable travail critique, c'est-à-dire de déconstruction des catégories, de déconstruction de la manière dont la société pense, et de dire en fait, l'homosexualité, ce que l'on nomme l'homosexualité, est une création, et une création en particulier des sciences psychiques, de la psychiatrie et de la psychanalyse. Selon lui, il y a des flux de désirs qui traverse la société, un désir qu'il appelle indifférencié, c'est-à-dire que le désir se porte sur des objets, c'est le terme psychanalytique, mais aussi bien des hommes, des femmes, et que la psychanalyse a construit par-dessus, en fait, un découpage en catégorisant la manière dont le désir se porte, en disant, bah, tel désir, on va dire que c'est le désir hétérosexuel, et tel désir, parce qu'il se porte sur tel individu, est le désir homosexuel.
Je vais essayer de dire comment je vis cette conception homosexuelle du monde. Ça ne veut pas dire que je crois possible de la résumer dans un manifeste. Au contraire. D'abord, nous, homosexuels, refusons tous les rôles, parce que c'est l'idée même de rôle qui nous répugne. Nous ne voulons être ni homme ni femme, et les camarades travestis peuvent l'expliquer le mieux. Nous savons que la société a peur de tout ce qui vient du plus profond de nous-mêmes, parce qu'elle doit classer pour régner, identifier pour opprimer. Nous ne pourrons jamais nous figer. Désormais, tout rôle nous répugne.
C'est bien un texte qui se veut critique, au sens que la théorie ou que la philosophie a donné à ce moment-là, c'est-à-dire d'interroger la signification des mots et des concepts, des catégories qu'on utilise, et donc finalement de faire disparaître même le terme « homosexualité », l'homosexualité même, en montrant comment elle est une création et comment les choses pourraient être autrement. Et du coup, ce qui est intéressant, c'est qu'alors que quelques mois plus tôt, lui-même se proclamait homosexuel par le coming out au sein du Phare ou au sein de l'article du Nouvel Observateur, dans le Désir homosexuel, déjà, il souligne un peu, lui-même le dit, le piège pervers qu'il y a à se revendiquer homosexuel, puisque se dire homosexuel, c'est finalement accepter les catégories par lesquelles on est dominé ou oppressé. Et plus généralement, dans l'ensemble de sa démarche, il y aura sans cesse cette idée d'interroger perpétuellement les acquis, les catégories, et de ne jamais se contenter de ce qu'il y a, mais de chercher toujours à déplacer inlassablement, chercher à questionner ce qui nous semble évident.
Je ne crois pas qu'il faille confondre Guy avec le phare. Des années plus tard, d'ailleurs, un jeune homme qui venait l'interviewer, il a dit « L'homosexualité n'est plus un sujet pour moi ». Il me disait d'ailleurs dans nos conversations « Mais je ne défends pas l'homosexualité en elle-même. Je la défends parce que c'est un crime social ». Mais à partir du jour où, justement, d'une certaine façon, le combat avait abouti à ce qu'il ne désirait pas, à savoir la normalisation et la banalisation. Je veux dire, Guy n'a jamais rédigé des lois. Quand on est là, ça fait longtemps qu'il est ailleurs. Guy déteste ce qui est normal. Ce qu'il veut abolir, c'est la normalité.
Je me suis souvent demandé ce qu'il aurait dit et fait au moment des manifestations pour la reconnaissance du mariage pour tous. Je n'ai pas de réponse parce qu'on ne peut pas faire parler les morts, mais en tout cas, à l'époque où il a milité, il n'était pas du tout pour la normalisation de la vie sexuelle des homosexuels.
Revendiquer un mariage, c'est comme revendiquer l'Académie française pour Finkielkraut. Hein.
Jean-Luc Hennig.
C'est horrible pour quelqu'un des années 70. Autant on aurait pu imaginer une union libre entre deux hommes ou deux femmes. Autant l'idée d'un mariage était quelque chose qui, alors là, on tombait du ciel. Enfin, réduire la vie homosexuelle à la vie de couple était quand même un saut de l'esprit assez considérable. Pour quelqu'un qui avait imaginé le nomadisme, l'errance, le métissage, tout ça, c'était impensable. C'était tout à fait antinomique. Donc, ça a été un moment, une utopie. Il a apporté ce moment d'utopie homosexuelle. C'était quelque chose de très simple, de très naturel, de très pur même.
À voix nue. Aujourd'hui, Guy Hockenheim s'entretient avec Thierry Pfister.
France Culture, 1988.
Ça me fait penser quand même à une tentation qui affleure, je ne sais pas si elle est réelle, qui est alors non plus de l'homosexualité, mais la pédérastie. Je pense au roman que vous avez publié chez Albin Michel, Les Petits Garçons. Est-ce que cette tentation existe et qu'est-ce qui existe comme tentation ? Celle des petits garçons ou celle de la prison et de la transgression sociale majeure, celle qui est encore réprimée par la loi, ce qui n'est plus le cas de l'homosexualité ?
Oui, j'ai toujours attaché une valeur au fait que quelque chose soit réprimé par la loi, ça c'est vrai. Le problème de la pédérastie, ou comme on dit très vilainement aujourd'hui la pédophilie, est un petit peu différent parce que je crois que nous avons affaire dans ce domaine-là à un tabou qui est dangereux pour nous tous, c'est-à-dire qui assassine en nous l'enfant, tout comme il interdit les relations avec les enfants véritables.
L'enfance a été un terrain de réflexion et de militantisme très très important pour Hockenheim.
Antoine Idier.
Un livre qui permet notamment de matérialiser ça, c'est le Coiré, qui est publié en 1976 et qui est coécrit avec René Scherrer, qui a été son mentor, propose de déconstruire ce qu'est l'enfance et ce qu'une société attribue collectivement au terme enfance, au terme enfant, et notamment cette idée majeure qui est que ce qui nous semble évident, c'est-à-dire qu'il existe une enfance séparée d'une sphère adulte, n'est finalement pas si évident que ça. L'enfance est un thème majeur dans les années 1970, où il y a énormément d'écrits sur l'enfance, où on veut un peu libérer les enfants de l'oppression qui pèse sur eux. Cette réflexion théorique, très importante, et qui est aujourd'hui, en 2016, totalement oubliée, totalement disparue, qui même nous semble inimaginable, tellement il y a eu un mouvement de retour en arrière sur toutes les questions d'enfance, avec même une fétichisation de l'enfance, une moralisation très forte de l'enfance. Donc ces questionnements théoriques-là vont de pair avec des prises de position politiques et juridiques sur la question de la sexualité entre enfants et adultes, qui sont très liés au débat sur l'homosexualité, dans la mesure où, jusqu'en 1974, la majorité sexuelle hétérosexuelle, si je peux dire, est de 15 ans, alors que la majorité sexuelle homosexuelle est de 21 ans. Et donc, dans un mouvement qui réclame la disparition de cette pénalisation de l'homosexualité, Ockenheim et d'autres, Scherer, mais aussi Michel Foucault, Gabriel Masneff, vont interroger la pertinence de fixer dans la loi un âge du consentement sexuel. Et de dire, dans la mesure où on s'interroge sur le fait qu'il y a un âge du consentement hétérosexuel et un âge du consentement homosexuel qui soit déjà différent, réclamons d'abord l'égalisation de cet âge du consentement, mais allons encore plus loin et demandons, est-ce qu'il est pertinent qu'un âge du consentement sexuel soit fixé par la loi? Et est-ce que l'âge du consentement sexuel tel qu'il existe aujourd'hui, est-ce qu'il ne doit pas être abaissé? Il y a un ensemble de pétitions, d'interventions dans la presse autour de 1977-1978. Il va de soi que Ockenheim n'a jamais pris parti sur les rapports non consentants. Il n'a jamais fait l'apologie du viol ou jamais fait l'apologie de l'abus sexuel. Mais il a toujours défendu qu'il existait une sexualité consentante qui pouvait unir non pas des enfants, mais ce qu'on met dans la case adolescence, d'une catégorie assez vague et assez floue, et des adultes. Et lui va constater une répression accrue de ces rapports-là, et va s'indigner, se scandaliser. Il voit dans la question de l'enfance un peu peut-être un laboratoire ou un point d'observation par lequel on peut décrire cette forme de régression conservatrice.
À un certain moment, on a partagé un moment de notre existence tout en restant extrêmement indépendants l'un et l'autre.
Comme compagnon ou amant?
Non, mais oui, amant, si vous voulez, c'était la formule à l'époque, mais amant, si vous voulez, oui. Guy Ockenheim était quelqu'un qu'on pouvait tellement peu apprivoiser, ça a été vraiment une école de liberté. C'est-à-dire que toujours, malgré un caractère quand même assez autoritaire et bien trempé, il m'a laissé totalement libre de faire absolument ce que je voulais. Il n'y avait pas de sentiment d'appartenance mutuelle. C'est la chose la plus agréable que j'ai connue avec Guy Ockenheim. Et un jour, il m'a dit tout à fait au début, « Je vais te surprendre. » Très sérieusement, il l'a dit, « Je vais te surprendre. » C'est quelqu'un qui ne dévoilait pas toutes ses facettes. Et ça, c'était très bien, parce que c'était très agréable, je trouve, d'avoir quelqu'un de franc et en même temps dont on ne connaissait pas tout. C'est impossible de dire qu'on connaissait tout de Guy.
Il est lui-même un personnage qu'on pourrait dire magique, c'est-à-dire que sa beauté, son élégance, y compris sa voix, toutes ces dimensions entrent dans son personnage. On ne sait pas très bien, quand on ne le connaît pas, si c'est un personnage réel. On l'a qualifié d'ange, il était un petit peu angélique, dans tout ce que ça de démoniaque d'ailleurs. Il fascinait au sens propre beaucoup de gens. Il regardait les gens dans les yeux sans ciller.
Il avait un côté très rustique. Il avait un côté mal fagoté, il s'habillait quand même très à l'as de pique. Mais bon, il était toujours solaire, toujours riant. Il était extrêmement sophistiqué, extrêmement aristocrate. Mais c'est peut-être son côté aristocrate qui le faisait justement se moquer un peu de tout ça. Quand il vous invitait chez lui, il n'y avait pas de table. Alors, il y avait une vieille porte. Eh bien, il met la porte sur les tréteaux. Et il met une nappe dessus, une jolie, pas repassée bien sûr la nappe, elle était froissée. Et puis des verres, des pareillés bien sûr, mais des beaux verres. Et puis des assiettes et tout ça, et tout le monde se mettait un petit peu comme ça, Masneff, tout ça, tous ses amis, Coppi, parfois Lavelli, parfois je ne sais pas qui moi, tous ceux qui tournaient aussi, Arias, tous ceux qui tournaient un petit peu autour de lui. Il habitait donc côté de la rue Lepic, sur la butte Montmartre. L'immeuble était quasiment un immeuble d'amis. Il y avait Coppi qui était en dessous, et puis je ne sais pas qui il y avait d'autre dans l'immeuble, mais enfin, c'était un immeuble phalanstérien déjà. Il était déchaîné contre l'humanité entière, c'est un fait certain, mais il y avait une monade, il y avait un lieu, il y avait un phalanstère où il y avait ses amis.
On vit dans la déconnade perpétuelle. On est à la fenêtre, dans des tenues pas possibles. On invite les gens qui passent à monter. Il y a eu
Hélène Azéra.
Beaucoup d'insouciance, d'amusement, de déconnage. J'ai un souvenir de Guy Ockenheim et Gilles Châtelet habillés en toucan parce qu'ils revenaient du carnaval et par Martine Barra, ils avaient rencontré les grandes personnes
qui fabrique le carnaval, les grandes, des grandes écoles de samba. Et ils avaient défilé avec je ne sais plus quelle grande école de samba. Ils nous avaient fait une petite performance.
Il avait une conception de l'amitié très, très étrange, que je n'ai connue qu'avec lui, qui est une amitié en étoile. C'est-à-dire qu'il était le centre, hein, le petit prince. Hein. Il était le centre éblouissant. Et puis, dans chacune des directions de l'étoile, il y avait quelqu'un de privilégié, avec qui il entretenait des rapports, souvent d'ailleurs mêlés, amitié et travail. C'est ainsi qu'avec Soukaz, il a fait du cinéma, avec Scherrer, son grand maître, il a fait de la philosophie, avec Roland, il a été une amitié amoureuse, une passion. Il expérimentait, je pense, à travers chacun de ses amis, il expérimentait une façon de voir, une façon de travailler, différente. Il a touché à tout, au fond. Il a touché au cinéma, à la radio, il était très curieux.
C'est Christian Aignon, un ancien du phare qui était à Libération, qui a présenté Guy à Serge July. Serge July avait lu deux, trois trucs partout et il avait compris, en regardant la presse américaine, qu'on ne fait pas un bon journal sans les PD insolents. Et donc, bah, autant engager Guy Hockenheim, qui avait déjà écrit. Et Guy a engagé Michel Cressol, son ami le plus proche, Michel m'a fait venir, et puis on est devenu une espèce de volière à l'intérieur de Libération. Maintenant, je vous parle de Guy, de la légèreté, l'humour, etc. C'était aussi un bosseur. C'était un vrai bosseur.
Julie lui a dit, bah, fais des piges, fais des grandes enquêtes, tout ça, mais sans être salarié. Et ce n'est qu'en 79, je crois, qu'il est entré au service télévision en tant que salarié de Libération. Et c'était un peu un placard. Hein. La télévision, c'était quand même le plus petit service. Et pourtant, il a réussi à créer dans ses séries, etc., des choses formidables, genre La Nouvelle Droite et tout ça, qui ont fait polémique considérablement.
Antenne 2, 1979.
Et puis, à côté de vous, Guy Hockenheim. Alors, Guy Hockenheim, qui est à Libération, et Libération a annoncé très joliment l'émission d'aujourd'hui. Je lis sur les intellectuels journalistes. Notre éminent collaborateur Guy Hockenheim, pour son livre La beauté du métis, est livré au baderne sacré de la presse. Jean-Daniel pour l'Obs, J.F. Revel pour l'Express et Jean.
L'image que je trouve la plus marquante ou qui en dit peut-être le plus sur lui, c'est un extrait télévisé. C'est en avril 1979. Il est invité d'Apostrophe, l'émission de Bernard Pivot. Il est jeune, il a seulement 33 ans. Et il est face à des figures de la presse installées, des figures même du pouvoir journalistique. Il y a Jean-Daniel de Nouvel Observateur, Jean-Louis Faire du Point, Jean-François Revel de l'Express.
Vous enseignez la philosophie à l'Université de Vincennes. Mmh. Vous êtes écrivain et vous êtes journaliste à Libération.
Est-ce que c'est très beau dans le Apostrophe. Lui est... Et en suite, face à trois hommes, quarantenaires, voire cinquantenaires, en cravate, qui vraiment portent en eux la respectabilité et l'expriment dans tout leur corps. Et lui incarne tout à fait quelque chose de différent.
Bon, je suis à Libération. À Libération, on gagne tous 2700 balles par mois. Et pour moi, c'est important de gagner 2700 balles par mois, d'abord, il faut le dire. Et puis, d'autre part, il y a des choses que je peux dire dans Libération que je ne pourrais pas dire autrement. Toute une série de choses sur des sujets qu'on va peut-être aborder, sur les immigrés, sur les rapports avec l'enfance, etc. Que je
pense. Et il va se plaire à les contredire, à leur apporter la contradiction, à être très moqueur, très incisif, quitte parfois lui, en fait, à se desservir lui-même. Bon, il me semble que c'est tout à fait Hockenheim, en fait, qu'on voit là.
Quand vous avez repris France Observateur, quand vous avez créé le Nouvel Observateur, le à partir de France Observateur, vous avez fait un type de journal qui est exactement
tout à fait
le même genre.
Entier dans ses emportements, entier dans sa recherche du scandale.
Un type de journal avec beaucoup de publicité dedans. D'un type de journal commercial, assez de jouer au pur. Je vous reproche pas de faire un journal commercial, mais assez de jouer au pur et de donner en plus des leçons en disant nous sommes
qui donne des leçons depuis qu'on est là. Qui donne des leçons depuis qu'on est là?
Parce que c'est du conflit ou c'est du dissensus que naissent des choses nouvelles et non pas du côté du consensus ou du commun.
Vous racontez rien du tout. Nous sommes.
Après, au sein de Libération, Hockenheim lui-même a pensé son rôle encore une fois comme une contestation de la contestation, c'est-à-dire au sein de Libération, qui est un journal issus du maoïsme, avec un certain dogmatisme politique. Il se pense, encore une fois, comme un agitateur, comme quelqu'un qui doit parler de sujets dont on ne parle pas, qui doit un peu être le trublion au milieu de cette équipe, notamment sur les questions de sexualité, mais sur plein d'autres sujets.
Ça se fait de moins en moins, la polémique. Maintenant, les gens, ils recopient le dossier de presse. Et lui, il pouvait être un polémiste avec une espèce de méchanceté. Il arrive à Libération, il a décidé que Serge Joly serait son plus grand ennemi. Il ne le ménageait pas. Dans son propre journal, Joly avait des articles où il était remis en cause.
Par Guy Hockenheim.
Ce qui apparaît quand on lit ces textes, c'est qu'il semble s'être avant tout pensé comme polémiste, c'est-à-dire comme quelqu'un dont le rôle est peut-être un rôle avant tout réactif, c'est-à-dire qui réagit à l'époque pour contester ce qu'est l'époque, et notamment dans son propre espace. C'est-à-dire pour Hockenheim qui se pense appartenir plus ou moins à la gauche radicale, c'est pas la droite qui l'intéresse, c'est même pas la gauche type socialiste ou gauche communiste, mais c'est d'aller interroger au sein de la pensée et au sein des mouvements contestataires, la manière dont la contestation se fait, se pratique et se pense. Il dit dans la lettre ouverte à ceux qui sont passés du Colmao au Rotary que toute contestation est contestation de la contestation.
Génération. Pendant des années, je m'étais juré à moi-même de ne pas prononcer ce mot. Il me répugne d'instinct. Je n'aime pas l'idée d'appartenir à ce bloc coagulé de déception et de copinage. On ne devient génération que lorsqu'on se rétracte, comme l'escargot dans sa coquille et le repenti dans sa cellule. L'échec d'un rêve, la strate des rancœurs, le précipité qui retombe d'un soulèvement ancien se nomme génération. Celle qui, aujourd'hui, va de la trentaine attardée à la cinquantaine précoce, s'est déposée comme le sel amer de la désillusion. Il faut bien prononcer le mot, cerner l'adversaire, puisque nul n'ose le faire. Libé et Actuel, Chéreau et Glucksmann, Coluche et Médecin du Monde, les institutions que vous êtes devenues, ex des groupuscules, personne n'ose les attaquer. Votre pouvoir insolent s'est établi sous la gauche, mais il n'est ni de droite ni de gauche, il est d'un âge. Celui qui est parti de Mao, mais, pour arriver au Rotary et au Rolls, directeur de journaux et converti du nucléaire, capitaliste récent et stratège de la dissuasion, vous avez renié à tour de bras vos idées, portant votre crachat de renégat en sautoir. Vous êtes la légion du déshonneur, les décorés de la volte-face.
Je pense que beaucoup de gens, à Libé et ailleurs, ont été éblouis par Guy. Ébloui et extrêmement agacé, parce qu'il était trop libre pour ce monde-là. Il en faisait partie et en même temps, il le critiquait avec une verdeur, avec une façon tellement incisive et tellement pertinente que le monde était agacé. C'est à ce moment-là qu'il sort son livre de la lettre ouverte. Elle est adamantine, cette lettre ouverte. Et elle n'épargne personne. Et quand on la relit 20 ans plus tard, on reconnaît les gens à ce qu'il a vu et que personne d'autre ne voyait.
Le monstre, l'ennemi dont je vais ici tracer l'affreux portrait, proté au sans visage, se caractérise par la seule énergie de son retournement, voulu et proclamé. Il a le nez de Glucksmann, le cigare de Joly, les lunettes rondes de Coluche, le bronzage de Lang, les cheveux longs de Bizot, la moustache de Debray, la chemise ouverte de BHL et la voix de Kouchner. C'est le néo-philistin fier de l'être et qui pourtant semonce et sermonne les autres. Son nom en politique est Consensus. Sous la gauche, il s'est chargé d'effacer le rôle contestataire et toute différence entre idéologies. Non en les critiquant toutes, mais en les assemblant bout à bout. Par ce livre, je l'extirpe de ma vie et je rends le printemps d'il y a 18 ans à son éternelle jeunesse.
Ce qui est étonnant, c'est à quel point il peut attaquer, y compris ses propres amis, sans que lui ne semble nécessairement penser que ça nécessite une fâcherie. Il a des attaques sur le physique, aussi bien parce qu'il les caricature, par exemple dans ses romans, dans L'amour en relief, qui paraît en 1982, ou dans Ève, qui paraît en 1987. Il met en scène ses propres amis, qui forcément se reconnaissent, mais il les met en scène de manière très caricaturale, très ironique, très grinçante, sans sembler concevoir à quel point ça peut être désagréable pour ses proches. Et c'est encore cette attitude du polémiste, du pamphlétaire, de celui qui rit de tout, Ce qui rend peut-être aussi désagréable, c'est celui qui se place sans cesse en surplomb, ce qui n'est pas non plus dénué d'arrogance.
Quand on est dans un roman de Guy, c'est jamais pour être quelqu'un de bien. Il a quand même tout un jeu avec les personnages réels de son entourage qui se retrouvent dans les situations les plus désobligeantes.
C'était Paris l'hiver, triste et méchant. Les têtes changeaient de coiffure et de sentiments.
Et vraiment, dans L'amour en relief, qui a eu beaucoup de succès, qui pour moi est un de ses plus beaux livres, ça serait bien de le rééditer, il y a un personnage qui est la photographe Martine Barra, il y a un personnage de directeur d'asile d'aliénés, je crois, qui est Foucault.
Ceux que j'avais connus faisant des petits boulots maintenant se prenaient au sérieux et avaient des répondeurs téléphoniques. Malika et les deux sœurs voyaient surtout des gens de la mode, des japonais défoncés, des folles cuir et autres monstres. Hermeline, à son tour, devint un écrivain célèbre, après avoir écrit un livre féministe qui s'appelait « Au plus profond de moi-même ». Jérôme et Patricia avaient trouvé un gros contrat au ministère de l'Équipement pour former à l'artisanat écologique les cadres recyclés. Ils déménageaient pour aller vivre dans un château à la campagne que l'État leur confiait. Malika et les sœurs ont déménagé aussi. Elles n'avaient plus personne à harceler, maintenant que le premier était désert et Madame Robert mourante. Et moi, pourquoi restais-je là ?
Ce passage à la littérature, je crois qu'il voulait le faire. Il a pris un virage très net à partir du moment où il a publié L'amour en relief, qui a été très remarqué quand même par la critique, ce roman qu'il avait en tête donc d'un jeune aveugle. Et il n'y était pas arrivé, en fait. Et puis, tout d'un coup, vers 81, 82, ça a bien marché. Je crois que ça correspond aussi, en fait, à l'élection de Mitterrand, qui a été une sorte de choc, je crois. Mais c'est sûr qu'il s'apaisait en le monde romanesque qu'il créait, l'apaisait énormément. Sa vie, peut-être, était plus apaisée. Je pense qu'il aspirait à beaucoup de tranquillité, à l'époque où je l'ai connu, après avoir eu une vie de militance, quand même très remplie. En une dizaine d'années, un peu plus, enfin, je sais pas, 10 ans à peu près, il voulait vraiment décrocher de ça. Il aimait bien se retirer à la campagne. Même les médias lui inspiraient une certaine méfiance, même s'il voulait y participer, il continuait à y participer avec une certaine jubilation. Mais ce qu'il avait en tête, en vue, c'était sa carrière d'écrivain, sans aucun doute.
France Inter, 1987.
Un livre dont on parle beaucoup en cette rentrée, c'est bien de Ève, un roman de Guy Hockenheim qui vient de paraître chez Albin Michel. Pourquoi ? Parce que c'est un livre tout à la fois dérangeant, émouvant et d'actualité. Guy Hockenheim, bonjour.
Bonjour.
Est-ce que l'on peut dire que c'est une méditation sur la maladie et sur la mort ?
Pas seulement sur ça. J'ai essayé, pour une fois, dans un roman français contemporain, de parler de la contemporanéité, de parler de ce qui se passe aujourd'hui.
Ces œuvres de fiction, elles sont aussi assez diverses. Hein. Entre Ève, L'amour en relief, Fra Angelo, La colère de l'agneau, il y a des écritures différentes. Et je pense qu'il y a des intentions littéraires différentes aussi. Et peut-être étaient-elles ambiguës depuis le début, hein, les intentions littéraires de Guy quant à la fiction. Il y a un mélange d'intentions de réussir à être reconnu dans le monde littéraire, et de désir de le tourner en dérision, de le moquer, y compris de le vilipender. Il le moque en ne jouant pas le jeu de la grande littérature. Il sait qu'il a une très belle plume. Et il en fait un gagne-pain. Et il écrit, de son propre aveu, des romans de gare, en tout cas l'un d'eux. Ève, il le conçoit comme un roman de gare.
C'était pas un poète. C'était pas un poète des mots. C'était un poète de la vie. Je veux dire par là que les phrases venaient un peu comme ça venaient. Autant les essais sont brillants, etc., autant les romans me paraissent un peu... c'était des contes philosophiques, mais un peu rapides. Hein.
Je pense qu'au fond, dans les 10 dernières années de sa vie, il aimerait bien être reconnu comme un vrai grand écrivain, que, à mon avis, il est. Et je pense que ces derniers livres, il essaie de les soigner de façon à ce qu'ils soient reconnus. Et je pense que, par exemple, son dernier livre, Fra Angelo, il l'a écrit extrêmement vite. Il l'a écrit en quelques mois. Et qu'il est un peu raté, et puis il rate les prix parce qu'il n'est pas tout à fait achevé. Il aurait bien aimé terminer sur un joli feu d'artifice littéraire où il aurait eu un prix et où il aurait pu boucler la dérision sur vous voyez que j'en étais.
Alors, Hockenheim va mourir du sida fin août 1988. La maladie est diagnostiquée 3 ans plus tôt, en 1985, à une époque où non seulement l'état des connaissances en termes de santé publique est très faible, et où la maladie connaît une très très forte stigmatisation et une opprobre sociale. C'est le moment où on parle de cancer gay.
Il a été malade un peu plus de 2 ans avant de mourir. Voilà. 2 ans et demi pendant lesquels il a produit 2 romans, Ève et le dernier roman qui est Frère Angelo. Donc il y a eu effectivement une accélération très nette, et quand il a publié Ève, il était déjà très malade. Et effectivement, il a écrit certaines pages de Ève à l'hôpital, et je crois que le fait de pouvoir écrire à l'hôpital, ça a été un réconfort énorme. Il y a des pages d'Ève qui sont écrites probablement dans un état de fièvre, et je crois que ça se sent, ça s'entend. C'est des pages vraiment inspirées.
Ève chérie, l'hôpital où l'on est, où l'on meurt, c'est notre mère, notre père et notre bourreau. L'hôpital aussi c'est un voyage. Voyage sur place, voyage entre les services, voyage dans la souffrance et la mort jusqu'au bout. Sur cette planète, les parallèles sont les heures de la journée, si lentes à venir, ces heures vides et pourtant bouchées, remplies sans une faille, sans un instant à soi. Il y a l'infirmière qui vient piquer et dépiquer, l'externe qui pose 100 fois les mêmes questions d'un ton pénétré, la visite et la chambre envahie par 10 personnes qui opinent du chef au propos du patron, et puis les visites, celles des amis, auxquelles je ne peux refuser l'entrée. Les malheureux sont si sûrs de faire ainsi la preuve de leur bon cœur. Il y a la toilette qui prend 1 heure, toilette de chat avec une compresse stérile en guise de gants, minuscule et minutieuse. J'en avais assez, je trouvais humiliant que les infirmières me savonnent, me retournent, avec quelle peine, et me talque comme un gros poupon paralysé. Alors, en dépit de ma fatigue, je me lève et je m'assieds face au lavabo et je me lave par petits morceaux. Un jour, je me suis vu torse nu devant la glace en me relevant. On dirait une photo de camp de concentration. Les côtes sortent sous la peau comme si elles allaient la crever. Les bras sont des allumettes, les jambons fondus. Je n'ai même plus de fesses. Et en plus, je suis couvert d'escarres à force de vivre couché. Enfin et surtout, j'ai le regard traqué, paniqué, d'une bête sauvage aux abois.
C'est compliqué d'aborder la manière dont le sida occupe une place dans l'œuvre d'Hockenheim. C'est-à-dire qu'à la fois, le sida occupe une place importante. Il va s'exprimer sur le sujet dans des tribunes, dans la presse. Et surtout, il va consacrer un roman au sida. C'est le roman Ève, de 1987, roman qui connaît un très fort succès, qui est en lice pour le prix Goncourt et qui arrive au dernier tour du prix Goncourt. Et en même temps, le roman est assez emblématique de la manière dont Hockenheim s'intéresse au sida, c'est que le sida y apparaît de manière cryptée, le mot sida n'apparaît jamais, on parle du LAV, L-A-V, mais qui à l'époque est un terme que tout le monde comprend parce que c'est le nom qu'avait le sida à ses débuts. Et le roman lui-même est très étonnant parce que c'est un roman sur un écrivain homosexuel quarantenaire parisien qui présente, a priori, plein de points communs avec l'écrivain lui-même. Et Hockenheim fait ce roman à clé. À la sortie du roman, Hockenheim est interrogé à plusieurs reprises, et même avec une insistance assez désagréable, pour savoir si, comme son narrateur, il a le sida. Et ça résume très bien l'époque, c'est une obsession de savoir qui a le sida, quelle personnalité publique a le sida, et lui se défend en disant que poser une question est oppressif, policier, et qu'il n'a pas à répondre à une telle question.
Guy n'avait pas envie d'être le séropos de service, et on l'a accusé, mais il a jamais caché. Quand on lui a posé la question, il a refusé d'y répondre, ce qui voulait tout dire. Pas besoin. Voilà. C'est pas non, je ne suis pas contaminé. C'est non, je ne veux pas en parler, etc. C'est quand même très important. C'est là où la grandeur de Guy, c'est il est un passe-à-lanterne.
Hockenheim, c'est la ligne claire, hein, à l'extrême pointe radicale du non. Non, je ne participerai pas à ça. Donc il dit non. Il dit non à tout. Il était détaché de tout. Détaché de l'institution, détaché. N'avoir plus que soi à s'occuper, que faire des livres et que rêver. Et je pense que c'est ce qu'il a fait à la fin. Et quand je vois ce que sont devenus les grands professeurs de morale de l'époque, vraiment, je me dis que c'était la position la plus en cohérence avec ce qu'il était. Il était prêt à tout, il était prêt à tout, oui. Aujourd'hui, les gens ne sont plus prêts à tout, ça c'est certain. Et surtout ceux qui ont trahi tous leurs idéaux de l'époque.
Il a écrit vraiment jusqu'à la fin, c'était très très important. Il y avait un sentiment d'urgence très grand et il voulait donner tout ce qu'il avait à donner. D'une part d'ailleurs pour vivre matériellement assez confortablement, d'autre part parce que je crois qu'il voulait faire le plus possible avant de disparaître. Pour laisser une trace de, peut-être ça paraît idiot un peu, mais une trace d'amour.
Je me souviens en particulier, entre autres, mais de la dernière fois que j'ai vu Guy, et c'était un mois avant sa mort. Et il souffrait énormément. Il savait qu'il était en train de mourir. Je me suis assise sur son lit, il était couché. Je me suis assise sur son lit, j'ai pris dans mes bras, ce qui était une chose rare. Et parce qu'en fait, Guy était très, très pudique. Et pas seulement avec les femmes, je veux dire, il était très pudique. C'est une des choses qu'il faut comprendre à ce propos. C'est ce personnage extrêmement public, qui a fait beaucoup de bruit, était quelqu'un de très pudique. Je me suis assise sur son lit, j'ai pris dans mes bras, et il m'a dit, qu'on peut même pas se convertir. Et je lui ai dit, on ne peut pas se convertir, mais on peut rester croyant.
On me transférera bientôt d'ici à l'hôpital, pour quelques semaines, je suppose. Je ne regrette pas la liberté voyante symbolisée par l'espace entre deux barreaux. Je regrette le vent. Je veux retrouver le vent, le souffle des villes que je ne connais pas encore. Le vent est mon élément, ma distraction sensuelle, mes paysages. Je veux retrouver les villes du vent qui me guide et me soutient. Le vent lourd de fumée charbonneuse et de conserverie, de rumeurs des Ramblas, qui m'arrivent sur le carreau de faïence par le balcon de fer forgé de Barcelone. Les larges et puissantes respirations salines de la baie de New York. La brume étouffée de l'Oden et de fourrure des galeries de Milan. Je ne connais pas les vents d'Asie, je regrette ceux du Pacifique. Il me reste tant de vent à découvrir. On ne voit pas le vent, on en fait partie, le vent est en moi, autour de moi, sur moi. Il est ma liberté faite chère.
Guy Hockenheim, itinéraire d'un indompté. Avec Hélène Azera, Marc Hatzfeld, Antoine Idier, Elisabeth Salvaresi, Jean-Luc Hennig et Roland Surzur. Texte lu par Olivier Martineau, extrait de l'Amphithéâtre des Morts, l'après-mai des faunes, lettre ouverte à ceux qui sont passés du col Mao au Rotary, l'amour en relief et Ève. Merci à René Scherrer, à Cécile Voissé-Vesser et Guillaume Charpentier. Prise de son Pierre Mine, Raymond Albouy et Stéphane Desmonts, mixage Pierre Mine. Une émission de Delphine Saltel, réalisée par Marie-Laure Ciboulet.
C'était Une vie, une œuvre, une émission proposée par Perrine Kervran avec Claire Poinsignon. Bibliographie, réécoute et podcast, c'est sur la page de l'émission sur le site de France Culture. Retrouvez-nous aussi sur Facebook et Twitter. Et la semaine prochaine, grille d'été, nous nous retrouverons à 17h le samedi et le dimanche avec une programmation qui fonctionne par pair. Père d'amis, père d'amoureux, samedi prochain, John Cage, et dimanche, Merce Cunningham. Mais dans un instant, Christophe Onodibio et le temps des écrivains.